tous. Alors oui, il fait beau, très beau, trop beau. Idéal pour bouger à plus de 100 km si on a une vue urbaine un peu courte en étant coupé des réalités de la nature. Nature qui, rappelons-le, n'est pas que le décor de nos loisirs, un terrain de golf ou un stock dans lequel on peut taper sans fin. Alors ce printemps précoce et très doux a permis aux abeilles, aux bourdons et mille autres pollinisateurs de butiner à l'aise, d'avoir des fleurs avec qui pratiquer l'échange, pratiquer l'amour, donc se nourrir, se charger les papates de pollen. Les DDE plus ou moins confinés n'ont pas pu sortir les faucheuses broyeuses du vivant en coupant les talus comme des paillassons. Alors oui, les petites larmes de miel dans le ciel que sont les abeilles ont bien fait le job. On est content dans les ruchers. Mais elles savent la sécheresse à venir. Car ce printemps 2020 a signé un pacte avec l'été. Je te commence le boulot de chaleur anormale et toi tu enchaînes avec l'étuve. Il sera pas chaud cet été, mais très chaud. Et des journaux, il fera la une. Alors les abeilles s'inquiètent du deuxième acte. Quand la terre mendiera, quand on fera des danses de la pluie, quand les fontaines feront des rêves d'eau. En attendant, je vous emmène avec Jérôme Boulet, mon réalisateur, tout au long de cette émission sur une belle terre, celle du Lot. Pays d'eau, de rivières, de causses et de vignes.
Et là, où va-t-on, au château de Bourguignon?
Bah là, on va vers la petite maison de vigneron qu'on a restaurée, qui va servir de petite maison de dégustation. On dégustera au milieu des vignes.
Claude et Lydia, on est chez vous. Et alors, c'est très intéressant parce que vous êtes, vous, originaire donc, de Bourgogne. Alors, on connaît hein, les militants du sol que vous êtes. C'est quoi l'histoire de ce lieu? Parce qu'on est quand même dans ce très beau département du Lot. Ouais, on a un petit château là-bas.
C'est le château de Roussillon. On est à côté du château de Roussillon. Et autrefois, tous ces coteaux qui sont abandonnés, où on voit des meurgets, c'était que des vignes. Donc là, il faut imaginer que tout le coteau, avant le phylloxéra, était couvert de vignes.
Et alors, le phylloxéra, Claude Bourguignon, ça a complètement en fait asséché, on le sait, bon nombre de régions de France. On est dans les années 1870 à peu près. Ça a été aussi le cas ici pour le Cahors.
Oui, parce que Cahors avait déjà été un peu appauvri par Bordeaux, qui utilisait les vins de Cahors pour améliorer les vins de Bordeaux. Oui. Avec les vins de Gaillac et ceux de Bergerac.
C'est-à-dire qu'ils renforçaient les années qui n'étaient pas très bonnes.
Voilà, c'est ça. Ils les renforçaient avec les vins de Cahors, de Gaillac et de Bergerac. Et donc, ils leur payaient pas cher. Et quand le phylloxéra va arriver, ils n'ont pas les moyens de replanter. Et ce département va se dépeupler complètement.
Lydia et Claude Bourguignon sont des médecins du sol, des spécialistes, des chercheurs dérangeant les lobbies en place. Et ils ont créé le laboratoire d'analyse microbiologique des sols en Côte d'Or. Et ce couple d'agronomes analyse ce qu'on appelle se délaisser, hein, que sont les sols, pourtant clés de nos vies et non simples supports de plantes arrosées de chimie. Car en fait, sur 30 cm d'épaisseur, le sol héberge 80% de la biomasse du globe. 80% des organismes vivants, oui, sont dans nos sols. Alors ça se voit pas, dans ce sol très mince, il y a beaucoup plus d'êtres vivants que sur le reste de la planète. Alors, le lieu. Nous sommes au nord de Cahors, et comme une majorité de départements, le Lot est une rivière, un très joli sourire depuis la Lozère jusqu'à la Garonne. Le Lot et son copain le Célé ont tailladé, avec l'aide quand même de quelques millions d'années, le calcaire tendre de ce beau département rural. Et on va commencer par cette question, je suis un sol, qui suis-je ?
Le sol est un milieu unique puisque c'est un milieu qui est organo-minéral. C'est-à-dire qu'il est formé de matières organiques, les humus, et de matières minérales, les argiles. Les attaches qui relient ces deux mondes opposés, c'est le monde du carbone, le monde de l'organique, c'est le monde du carbone, le monde des argiles, c'est le monde de la silice, ils sont attachés par un phénomène étonnant qu'on appelle les charges électriques. Mais le problème, c'est que ces attaches sont fragiles. Contrairement à l'air, qui sont des attaches atomiques, les gaz, ils ont des attaches atomiques, on ne peut pas détruire l'air, on ne peut pas détruire l'eau. Parce que ce sont des attaches atomiques. Donc l'homme peut les polluer, il ne s'en prive pas d'ailleurs. Il pollue l'eau, il pollue l'atmosphère. Mais le jour où on arrête de polluer, l'eau redevient pure et l'air redevient impur. Ce qui n'est pas le cas du sol. Le sol, une fois qu'on l'a cassé, une fois qu'on a détruit sa matière organique, les argiles partent et là, le sol, il est parti. C'est-à-dire qu'on l'a perdu, on a perdu notre patrimoine, on s'est ruiné. Et on fait croire aux agriculteurs qu'ils s'enrichissent. Non, ils ne s'enrichissent pas, ils s'appauvrissent, puisque en moyenne, on a perdu depuis la guerre 30 cm de sol en France. Donc c'est quand même pas rien, hein, au point de vue patrimonial. Vous calculez ça sur 30 millions d'hectares, ça fait quand même beaucoup de millions de tonnes, de milliards de tonnes qui sont partis à la mer.
Qui sont partis à la mer par les rivières. Lorsque l'on voit des rivières qui sont marrons, c'est jamais bon signe. Ça.
Voilà. Ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire que la Terre est en train de partir.
Ici, En fait, c'est de la vigne qui est assez neuve. Hein.
Oui, là, c'est très, très jeune.
Ah oui, c'est très jeune, ça. Et donc, il n'y a pas si longtemps, c'était recouvert de broussailles, de petites forêts.
On devine un peu des arbres qui sont en ligne, là, des chênes sont en ligne, parce qu'après le phylloxéra, ils ont planté des truffiers.
Ouais.
C'était leur façon pour eux de survivre un petit peu, de trouver une activité agricole pour survivre, c'était les truffiers. Donc on devine encore des lignes, des arbres plantés en ligne, là, ces petits chênes rabougris, c'était des chênes truffiers. Puis maintenant ils sont trop vieux, ils ne produisent plus.
Alors ça c'est aussi un peu une réalisation de votre rêve, parce que vous avez travaillé pour beaucoup d'agriculteurs, pour beaucoup de viticulteurs, en analysant, vous êtes un peu des médecins du sol. Hein. Et alors là, la chance que vous avez, c'est que ce sol-là, il est très sain au départ.
C'est un terrain très sain, mais pourquoi on est arrivé ici? C'est un architecte en 93 qui nous a demandé de venir analyser ses sols. Il est un peu plus loin, là, sur les coteaux, pour planter de la vigne. Et bon, on a fait les travaux qu'il fallait. Et quand on a vu les sols qu'il avait, mais on a dit, mais c'est incroyable, c'est fantastique, les sols du Lot. On est sur le Quai Méridien, donc c'est le même étage géologique que Chablis. Il y a un côté, même au niveau du climat, de la structure du sol, très bourguignon. Donc on s'est dit...
C'est pour nous, cette affaire.
C'est pour nous, cette affaire, en plus.
Et puis le décor, quand même, voilà. du Lot, là.
C'est extraordinaire, quoi. Il n'y a rien. On est que des collines couvertes de végétation autour de nous, quoi. C'est merveilleux. C'est un petit paradis.
Et des terrains pas chers.
C'est ça.
Pour nous, c'était... Bon, par contre, il a fallu tout faire, puisqu'on est parti des arbres, de la friche. Donc c'est un travail titanesque. Ici, les gens nous ont dit, vous allez vous planter, les vieux sont partis, ils crevaient vraiment la misère, donc vous allez vous planter. Mais si on arrive à sortir quelque chose de bien, ça veut dire que des jeunes, on peut remettre debout des sols qui sont complètement abandonnés pour l'agriculture.
Et là, on rejoint aussi l'agroécologie.
Hein. Complètement.
Oui, tout à fait, parce que les jeunes dans les grands vignobles connus ne peuvent plus s'installer, à moins d'être héritiers, d'avoir la chance d'être héritiers, mais vous ne pouvez plus vous installer. Ici, il y a un potentiel absolument fabuleux. 70% du département est à l'abandon.
Et alors ce sol, il n'y a pas eu d'engrais, il n'y a pas eu de pesticides pendant des années, quoi.
Rien. Puis il y a encore une biodiversité incroyable, des insectes qu'on trouve plus quoi dans le Lot, des oiseaux. Enfin, il y a une grande biodiversité.
Hein. Ouais. Le sol, les gens qui viennent travailler, puisqu'on a bien entendu, nous on travaille encore sur les terrains pour d'autres vignerons et agriculteurs. Donc automatiquement on a quelqu'un et il dit, mais moi j'ai jamais vu un sol aussi souple. Hein. Ils viennent le travailler.
Ouais.
Il dit, mais c'est du couscous, votre terre.
Oui, je sais pas si je vais faire du couscous avec. Mais... Oui, sinon.
Et il dit, j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai jamais vu une terre aussi souple, aussi... Elle est vierge.
Là, ce qui est formidable, c'est qu'on a en fait un camailleux de couleur de terre, quoi.
Il y a des terres blanches et des terres rouges.
La terre rouge, c'est l'oxyde de fer.
C'est l'oxyde de fer. Les terres blanches, c'est le calcium, le calcaire, hein, qui est très, très abondant et qui va donner des minéralités au vin, des tensions minérales beaucoup plus tendues. Dans les argiles, la grande surface interne, on va avoir des vins plus larges, plus épaulés, quoi, en dégustation.
Et puis on a aussi, donc là c'est plus sombre aussi de l'autre côté, aussi comme terre. Donc là.
Et là dans le bas, ben, on aura nos terroirs, nos cépages rouges.
Ouais.
Mais il y avait un dicton qui disait terre blanche, terre à blanc, terre rouge, terre à rouge. Souvent c'est vérifié. Hein. Et là on est vraiment sur des terres blanches et on a privilégié, c'est du blanc pour nous ici.
Et alors vous travaillez évidemment fidèle à votre ligne. Là on voit des poules. C'est aussi des alliés, ça, les poules, Claude Bourguignon.
Ouais, elles mangent les insectes qui attaquent les bourgeons de la vigne.
Ah ouais,
c'est des grandes nettoyeuses, hein. C'est qu'elles travaillent gratuites. Puis elles ont ce joli mouvement des pattes, là. Un petit coup de patte à droite, un petit coup de patte à gauche. Et hop, des petits coups de bec pour attraper les parasites.
Bon, voilà.
Elles travaillent pour nous.
Elles sont pour s'indiquer, tout va bien. Voilà. Mais c'est ça.
Puis on a planté des haies pour pouvoir, comme ça, on a des perdreaux qui nichent dedans. Il y a tout un monde qui revient, quoi. Et les chasseurs sont ravis, d'ailleurs, parce qu'ils ont à nouveau du gibier. Parce que, autrefois, l'agriculture française a été giboyeuse, hein, faut pas l'oublier.
Non,
hein. Il y avait du lièvre, il y avait du lapin, il y avait du perdreau, on chassait.
C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de faire de l'élevage et après d'envoyer des cocottes la veille du jour de la chasse.
Absolument.
Alors, qui connaissent pour la nature.
qui ne savent même pas qu'il faut s'envoler, il faut les tirer au sol.
Vous arrivez ici en 2007, donc c'est le défrichage dans un premier temps. Puis après, c'est quoi les étapes pour mettre ce terrain en mouvement?
Alors, une chose qu'on a faite, quand on a défriché, il y avait beaucoup d'arbres et déjà on a utilisé un outil qui avait été mis en place au moment de la tempête de 99, ça s'appelle un croque-souche, c'est-à-dire qu'en fait on a juste pris, les arbres ont été coupés, on a pris la souche et cet appareil c'est comme un bec de lièvre, donc la souche est soulevée, elle est broyée et elle est reposée. Donc on n'a pas eu à faire rentrer un engin compliqué.
Dévastateur.
Donc le sol est resté en place malgré les arbres.
Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous labourez, vous plantez, qu'est-ce que vous faites?
Après, on passe un broyeur forestier pour broyer parce qu'on a laissé tous les branchages, toutes les racines, en fait tout ce qui était sorti. Oui. On le passe au broyeur pour que ce soit bien plat. Et on épand du bois raméal fragmenté.
On va juste rappeler ce que c'est, c'est-à-dire que ce sont des jeunes pousses d'arbres.
Voilà, des bois de taille de haie. Voilà. C'est toutes les tailles de haie, tous les paysagistes qui livrent la ville de Cahors, qui apportent tout ce qu'ils ont récupéré dans les jardins, dans les villes, etc. Ouais. Tout ça, c'est broyé. Et nous, on le prend avant compostage pour que ce soit les champignons qui dominent. Et donc, on a épandu ça. Il y a eu tout de suite des champignons qui sont mis à pousser sur le sol.
Mmh. Donc, ils ont fait le travail. Et combien de temps après, on commence à planter les premiers pieds?
2009-2010.
À consommer avec modération, sauf les paysages. Une ronde de causses, Martel, Limogne, Gramat, bien centrale. Nous sommes sur sa frange, dans le Lot.
Bon, alors c'est bien, on a du pouilledonnier, on a de la ronce, on a tout ça. Ouais,
on peut faire des confitures.
Des confitures.
Le cul dans l'herbe.
Là, on s'est mis le cul dans l'herbe, on est pas mal. Alors depuis des années, en fait, on le sait, vous êtes tous les deux des lanceurs d'alerte. Vous avez été vraiment en avance, vous avez expliqué que le sol, c'est pas simplement un support de plantes. Que la clé du sol, c'est bien toujours le champignon.
Le champignon qui est à la base de la pyramide alimentaire du sol, oui.
Puis bien sûr l'humus. On rappelle combien de temps il faut, enfin en moyenne, pour fabriquer un centimètre d'humus?
Disons qu'en général, dans nos régions, on fabrique 1 à 2 tonnes de terre par hectare et par an. Quand c'est vivant.
Et on constate quand même qu'il y a 30% à peu près de sol quand même bien érodé dans le monde, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Alors ça, c'est lié donc à quoi? Que l'on comprenne bien. Si on veut bien prendre soin de son sol, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mais au départ, comment éviter de le dégrader?
C'est utiliser moins de produits, de désherbants, pour ne pas avoir de mauvaises herbes. Et puis, dans le monde de l'agriculture, des engins lourds. Et ça, ça a été vraiment la mort des sols.
C'est-à-dire que ce qui a tassé
les sols. Alors pourquoi ça ne marche pas? Quand vous mettez un désherbant, vous voyez là, on est assis dans l'herbe, hein, on l'a gardé, parce que la faune, donc les colamboles, les acariens, les vers de terre, eh bien en fait, ils se nourrissent de ça. Et ils font des crottes. Sur ces crottes, les champignons qui sont à la base de tout vont faire de la matière organique. Et ça, c'est l'or du sol. Si vous mettez un désherbant, il n'y a plus d'herbe. Ben, vous faites mourir la faune. Et la faune, elle a un avantage, c'est qu'elle circule à la surface du sol. Donc elle fait une terre grumeleuse. Et ça permet à l'eau et à l'oxygène de rentrer. Et à ce moment-là, ben, les racines, si vous mettez des plantes, les racines vont pouvoir descendre parce qu'elles ont besoin d'oxygène. Et d'eau.
Allez, on se relève. Ah, là au loin quand même, là on a des... C'est pas des animaux, c'est pas des sangliers, c'est des... Oui, il y a des casques et des roues et un moteur là. Hein.
Ah, là c'est les motocross qui viennent dévaster un peu tous ces, sous ces coteaux. Normalement c'est totalement interdit par la loi, mais ici personne ne dit rien, parce que c'est terrain abandonné. Et ils font beaucoup de saccage et après ces traces servent de démarrage d'érosion après. Parce qu'il creuse fortement, et après quand il pleut, ça prend la trace de la moto et puis ça entraîne toute la terre en bas.
Claude Bourguignon, rappelez-nous quand même un petit peu l'histoire, parce que à la sortie de la guerre, bien évidemment, il fallait nourrir le monde. On était dans une France qui était encore tout à fait agricole et paysanne. On a eu besoin de main-d'œuvre, donc cette main-d'œuvre évidemment est partie, a quitté les campagnes pour aller vers l'industrie. D'un point de vue chimique, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi effectivement on est parti à fond sur les engrais, puis après sur les pesticides. Et à un moment, on aurait sûrement pu arrêter.
Alors on est parti là-dessus parce que les engrais, il faut en particulier l'azote, venaient directement de la poudre à canon. Et à la sortie de la guerre, les usines qui fabriquaient de la poudre à canon, il a fallu qu'elles se recyclent dans la vie courante. Et ils ont transformé les nitrates qui servaient à faire des bombes en nitrates pour l'agriculture.
Ça avait été les brevets de Haber Bosch.
Voilà, c'est Haber Bosch, les brevets qui ont été déposés par les Allemands. Et évidemment, cet azote a minéralisé la matière organique, qui fait que le taux de matière organique a été divisé par 2 en France depuis 1950. Et divisé par 2, quand vous tombez au-dessous d'un certain... Il faut qu'il y ait un certain pourcentage de matière organique par rapport aux argiles. Et si on descend au-dessous, les argiles s'en vont. Et elles partent dans les rivières, nos rivières sont pleines de boue.
aujourd'hui, on va refaire quand même de l'agronomie.
Alors, je suis optimiste peut-être en disant ça, c'est ça?
Oui, aujourd'hui, les choses sont en train de changer, mais c'est encore très très lent. Les multinationales ont un pouvoir. C'est absolument dément, le pouvoir des multinationales par rapport à rendre complètement les agriculteurs dépendants d'eux, avec maintenant, bon, des produits soi-disant bio. Et en fait, on ne parle jamais du sol de l'agriculteur, en fait. Donc, il a tout le temps peur, il ne fait pas confiance à son sol. C'est terrible, ça. C'est-à-dire, il va toujours utiliser des produits, mais il ne fait aucune confiance à son sol. Il est persuadé que s'il ne fait rien, en fait, son sol ne lui donnera rien du tout. Et c'est absolument faux. En fait, la nature, le sol, les sols sont extrêmement généreux. Et on est toujours en train de dire à l'agriculteur, bon, maintenant, c'est peut-être bio, mais quelque part, il est toujours dépendant de ses produits. Il faut absolument qu'on change cette idée-là.
Claude, là je vois des rosiers, puis on voit une autre plante, ça, qu'est-ce que c'est? C'est de la bourdaine?
Oui, donc c'est la bourdaine qui est très utile parce que la tisane de bourdaine protège la vigne contre le mildiou. Donc dans la nature, on trouve en plus les plantes médicamenteuses pour la vigne.
Ça, vous faites quoi, de la pulvérisation?
Voilà, on fait une tisane et on pulvérise sur le feuillage.
D'accord. Et le rosier, lui, en revanche, c'est un indicateur, c'est
voilà,
ça?
Voilà, il annonce l'oïdium 15 jours avant la vigne. Okay. Donc quand on voit les feuilles blanchir, on sait qu'il faut protéger le vignoble.
Oui, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, ils se disent « Ah, oh, c'est joli, ils ont planté des rosiers à l'entrée des vignes, c'est pour faire beau ». Non, c'est pas que pour faire beau. C'est un thermomètre, quoi.
Voilà.
Qu'est-ce qui va faire bouger? Puis aussi, qu'est-ce que vous voyez, vous deux, positifs quand même, qui arrivent? Est-ce que c'est par les jeunes agriculteurs? Est-ce que c'est justement parce que lorsqu'on a des limitations, on le voit très bien maintenant au Quintaud, on arrive un peu au taquet dans certains coins?
Non seulement on arrive au taquet, mais il y a même des zones qui baissent en rendement. Donc voilà. Ça, la grande promesse des 150 Quintaud en France en blé, qui devait être pour l'an 2000, on est en 2016 et personne ne fait 150 Quintaud, alors qu'ils ont des blés à 150 Quintaud en potentiel génétique. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé à travailler avec Lydia au laboratoire, les agriculteurs étaient très fiers en Beauce de faire leurs 100 quintaux. Ils avaient des blés qui avaient des potentiels à 110 quintaux. Et ils faisaient 100 quintaux. Maintenant, ils ont des potentiels à 150 quintaux. Les mêmes, ils font 90. Ah oui. Donc là, ils commencent à se rendre compte qu'il y a un décalage qui est en train de se produire entre le potentiel génétique. Et c'est quoi la cause? Ah, c'est le sol. Le sol ne tissue plus. Le sol n'est plus capable de fournir ça.
Et en fait, le challenge, c'est remettre de la matière organique dans les sols. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et c'est ça qui fera qu'on remettra la bécane en route, quoi. C'est quand même pas si compliqué que ça. Le problème, c'est que, bon, il faut les maraîchers, les arboriculteurs, dans la vigne, on peut travailler avec des composts. Ça, c'est quand même relativement facile. Et puis, chez les céréaliers, eh bien, essayer vraiment de remettre en place ces techniques. Nous, on ne touche plus le sol, hein, on fait moins de labour et on travaille entre leurs semences avec des plantes de couverture qui vont permettre en fait de nourrir la faune et de refaire du compost, enfin de la matière organique. C'est vraiment la clé, c'est la clé de voûte. Et c'est vrai que les jeunes, nous, on voit, il y a des fois même des vrais conflits entre les générations parce que les jeunes veulent changer, ils se rendent bien compte que ils sont la tête dans le mur, quoi. Et les anciens, en fait, ont beaucoup de mal à accepter qu'ils se sont trompés pendant 50 ans, quelque part. C'est difficile à accepter qu'ils n'étaient pas dans le bon chemin. Et les jeunes veulent absolument aller dans ces voies-là. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Le problème, c'est qu'il faut du temps. Et les premières années, en fait, les rendements ne sont pas forcément là. Et c'est toujours le rendement. Donc en fait, ces jeunes, il faut les accompagner et politiquement parlant, il faudrait qu'il y ait une vraie mesure pour accompagner des jeunes ou enfin le monde agricole qui veut changer et aller vers ces techniques-là. Parce que si on ne les épaule pas, ben, ils ont une famille, enfin bon, et puis ils sont déjà que... Il y a des agriculteurs qui gagnent déjà peu leur vie. Donc il faut absolument accompagner ces nouvelles techniques, donner confiance et ça, c'est le gage de changer.
Vraiment, ça rythme, hein, ces paysages du Lot, lorsque l'on voit ces petits caillolards ou bien tous ces cailloux.
En Bourgogne, on appelait ça les murgets.
Oui, c'est ça.
C'est pareil. Hein. Et en Bourgogne, il y avait ces gariotes ou les cabottes ou les boris. En fait, dans tous les paysages viticoles, il y avait ces petites maisons qui portent toutes des noms, je trouve, en plus très chantants ici, ces gariotes ou caselles, les boris. Donc là, on en a restauré une. Là, il y a une gariote. C'était là où les ouvriers venaient se mettre à l'abri. Et beaucoup de gens nous ont dit qu'il faut pousser tout ça au bulldozer, ça va vous embêter et tout.
Vous avez gardé la gariote.
Et on a gardé la gariote. Les gens restaurent des maisons, on restaure des monuments historiques. Oh. Et nous, on a dit on va restaurer un patrimoine viticole. C'est-à-dire on garde tout les morgets, tout ça.
Il a dû se passer des choses dans la gariote. Hein. À mon avis, si les murs de la gariote pouvaient parler...
Et là, juste quelques notes d'introduction. Vous connaissez cette chanson en rapport direct avec le sujet.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'un million d'années, et toujours en été. Plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y a plein de chiens. Y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'un million d'années, et toujours en été.
Ferrer habitait le Quercy blanc, et en écrivant le Sud, il y avait ce mélange en lui d'origine italienne et de Lot.
Y'a quelqu'un ?
CO2, mon amour.
Loin de la civilisation empoisonnée, il fuit et seul.
Denis Chessou.
Arpente la terre pour se perdre.
Sur France Inter.
En pleine nature.
Nous y retournons dans ce Lot. C'était il y a 3 ans, mais toujours d'actualité, et nous parlons de ce bien sans qui la vie ne serait pas et qui peut nous faire défaut.
Là, on est en haut de la colline et il y a de l'eau. Les anciens, ils l'ont capté, puis ils ont fait un puits. Puis on voit que le bord du puits, il est gris-bleu. Hein, c'était la bouillie bordelaise, hein, pour protéger contre le mildiou. Eh bien, depuis qu'on est ici, on ne l'a jamais vu à sec. Et pourtant, on est en haut de la colline. Ils étaient quand même bons, hein, les anciens. Ils savaient trouver l'eau. Hein. C'est impressionnant. Hein.
On est à 300 mètres,
hein, là. Et là, on a 300 mètres d'altitude, et dans le haut de la colline, il y a le puits. Et donc, ils prenaient l'eau, puis ils allaient traiter.
En fait, l'eau, elle servait qu'à ça, qu'à traiter, pas forcément à boire ici. Non,
ici, on buvait plutôt du vin. Non, hein. Oh, ouais. C'est un peu d'eau de vie quand même.
Ah ouais. Pour désinfecter.
Pour désinfecter.
Claude Bourguignon, si on regarde aussi ce qui se passe dans le monde, on va juste rappeler que je crois qu'il y a quoi, 5% maximum des agriculteurs qui ont un tracteur. Les trois quarts, c'est du vivrier. C'est aussi beaucoup de femmes qui travaillent et qui sont agricultrices aujourd'hui. Et donc, y en a beaucoup qui prouvent que l'on peut, sur un sol même aride, que ça peut être possible. Mais une fois de plus, il faut transformer l'homme qui était chimiste en agronome, quoi.
C'est-à-dire qu'il faut remettre de la science, qu'on a oublié, remettre de la science à l'agriculture. C'est-à-dire comprendre les lois du sol et arrêter de les violer. Si on respecte les lois du sol, la nature, elle pousse merveilleusement. On va en Afrique, les forêts sont somptueuses. Enfin, donc ça montre que si on respecte ces lois, ça ne demande qu'à pousser. Mais que nous, on les viole, on fait l'inverse de tout ce qu'il faut faire. Donc on retourne la terre alors qu'il ne faut pas la retourner, on fait tout de travers. Donc forcément, après on se dit, tiens, ça ne marche plus. Ben oui, mais parce qu'on a cassé, on n'a pas respecté ces lois. Et ces lois demandent un investissement en connaissances, en sciences, et non pas des techniques. Ce n'est pas de technique dont elle a besoin en agriculture. Oui. C'est de science, comprendre le sol, avoir l'humilité de se pencher sur tous ces petits animaux qui peuvent paraître minables, ces vers de terre, et étudier leur, regarder comment ils fonctionnent, parce que chaque situation est différente. En Afrique, c'est les termites qui dominent, qui sont fondamentales. Nous, c'est les vers de terre. Chaque région a sa faune particulière qu'il faut savoir respecter et travailler avec elle.
Oh ben là, je vois de jolis petits cornets, hein, donc au pied de chaque vigne, parce qu'on se doute bien que vous n'êtes pas tout seul à venir, surtout la nuit, non?
Oui, il y a beaucoup de lapins, enfin de lièvres, non, pas que je dise de lapins, mais il y a beaucoup de lièvres. Et dès qu'il y a des jeunes pousses, en fait, ils se jettent dessus. Donc on est obligé de protéger les jeunes, hein, parce que bon, comme c'est un sol qui est quand même... Vous voyez, il y a quand même beaucoup, beaucoup de cailloux. Et puis si on gratte, on est tout de suite sur la roche.
Ouais.
Donc, il y a certaines vignes qui ont du mal. Et si les lièvres... Il y a des lièvres qui, tous les ans, casse-croûte. Et là, cette année, on a dit, terminé. On va arrêter le casse-croûte des lièvres et on va s'occuper de nos vignes.
Ça, on peut pas vous en vouloir. C'est... D'accord. Là, on a beau aimer la nature. Bon, d'accord. On est quand même sur du calcaire ici, donc là ça vous apporte ce qu'il faut.
Oui, c'est calcaire, c'est du phosphate de calcium, voilà. c'est des coquilles et des restes d'animaux marins, donc il y a du phosphate de calcium. Par contre, il n'y a que les mycorhizes qui peuvent aller le chercher. Donc c'est pour ça qu'il faut relancer d'abord les champignons, parce que toutes les vignes sont mycorhizées, et c'est les mycorhizes qui vont aller chercher le phosphore du calcaire pour la vigne.
Est-ce qu'on n'a pas cette fois-ci, pour l'agriculture, on va dire, industrielle, est-ce qu'on n'a pas un problème potentiel par rapport au phosphore? Parce qu'il faut quand même aller le chercher celui-là. On en rajoute, et donc il y a des mines qui sont au Maroc, d'autres coins, mais on dépend, enfin, notre agriculture est quand même dépendante.
On rajoute de tout parce qu'en fait, on n'a pas d'activité biologique, ce qui est très difficile à faire comprendre. Ce sont les microbes qui vont solubiliser les éléments qui sont dans la roche. Donc il peut y avoir des sols qui sont carencés en phosphore ou en potasse ou en calcium, mais en règle générale, en profondeur, il y en a. Mais si vous n'avez plus du tout de microbes, vous êtes obligé de rajouter. Et c'est ça la fertilisation. C'est parce qu'en fait, les sols ne sont pas vivants. Donc on compense et on met ces produits sous forme liquide. Hein, souvent, c'est des Kéla, le séquestrène, les agriculteurs le connaissent bien. Et c'est des produits qui sont très très chers, alors que les microbes travaillent gratuitement, font exactement la même chose. Donc plus on a un sol qui n'a pas d'activité biologique, plus les agriculteurs sont obligés d'utiliser de la fertilisation. Et c'est obligé, parce que sinon la plante est carencée et elle ne va pas jusqu'au bout.
Alors c'est assez marrant parce que je fais un parallèle avec le corps humain. Depuis 5 ans, les gens comprennent, on vous dit qu'on a un deuxième cerveau qui est l'intestin, mais dans notre intestin, nous avons à peu près 2 kilos, on va dire, de bactéries qui font aussi un boulot formidable. Voilà, on s'y intéresse maintenant différemment. Et pareil pour le sol.
Oui, c'est la même chose. On regarde au microscope une villosité intestinale ou une racine, un poil absorbant de plante. À moins d'être physiologiste, vous ne pouvez pas les distinguer.
Hein. Ah oui,
c'est exactement pareil. En fait, c'est le même principe, c'est les microbes de notre intestin qui nous donnent à manger et nous, on les absorbe par nos villosités intestinales et la plante, elle va donner du sucre par sa photosynthèse aux microbes et les microbes, en échange, ils donnent à manger.
Les anciens, quand au début on a eu du mal parce qu'ils nous ont pas très très bien vus, les parigots, enfin bon.
Oui, comme d'habitude, oui.
Et quand on est arrivé et qu'ils ont vu bon que le travail qu'on se mettait.
Un respect là quand même.
Là, il y a eu un vrai respect et on a entendu des personnes âgées qui sont venues nous dire quand ils travaillaient, donc vous voyez en face puisqu'on le voit, ouais. Et quelqu'un, un monsieur âgé, nous disait quand j'étais gamin, je travaillais avec mon père ou mon grand-père et puis on jouait et tout. Puis il y a un moment, bon, on partait et il y avait le père ou le grand-père qui disait dis donc, gamin, t'oublies rien. Alors, le gamin disait ben non, et des poches, ben, y a rien, tu prends deux cailloux. Et tu vas les poser sur le muret. Ouais, et c'est comme ça que les murets ont été faits.
Ouais. À chaque fois, il fallait ramener son caillou.
Ou deux cailloux dans les poches. Et, et on dépierrait la parcelle. Et c'est tout ce qu'on voit là.
Et alors, ce chien merveilleux là, qui attaque les lièvres, là, c'est un quoi comme,
C'est un Staffy.
C'est quoi, Staffy?
Un Staffordshire Bull Terrier.
Ah oui, c'est
une race anglaise. Ouais, mais il est très gentil, pas méchant.
Bon, non, pas du tout.
Les lièvres, c'est super.
Et pour les lièvres, oui, c'est super.
Oui, les lièvres, ils mangent.
Et puis il nettoie les pantalons, donc en plus.
Il nettoie les pantalons et surtout les bottes.
Ah oui,
et surtout les bottes et les chaussures cirées.
Bah, ça m'étonne pas, c'est un fétichiste, un votre clébard, donc c'est loué de ça. Allez, mon pépère. Il y a un lièvre là-bas, 20 lièvres. Allez, allez, cours, 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 allez hop.
Ce sera vraiment la première très belle vendange.
Croiser les doigts, qu'il n'y ait pas de grêle, parce que ça, c'est toujours la terreur de venir en vrai, c'est la grêle. C'est un paysage. C'est d'une beauté, là, c'est tranquille, c'est magnifique.
Vous avez envie de donner exemple, si ça marche, sur des terres dites ingrates ou bien pas faciles à cultiver, on peut y arriver.
Voilà, on peut y arriver. Si on retrousse les manches, on peut y arriver. C'est pour ça qu'ils attendent, les gens sont assez impatients de voir quel va être le vin qu'on va sortir, parce que ça peut être vraiment une chance pour ce département. Il y a des, regardez, les hectares, ouais. Il y a complètement l'abandon où des jeunes pourraient s'installer, pourraient créer une famille, pourraient faire une économie. Et c'est ce qu'on dit au département du Lot, on dit voilà, vous avez manqué le 20e siècle. Il n'y a pas de TGV, il n'y a pas de centrale nucléaire, il n'y a pas d'aéroport. Ils ont manqué ça.
Ils n'ont pas Notre-Dame-des-Landes.
Bah, ils ont Notre-Dame-des-Landes, tout ça.
Ils n'ont pas de PA.
Exactement, ils n'ont pas tout ça. Voilà, donc ils ont loupé le
20e.
Et on leur dit, mais surtout, ne loupez pas le 21e, parce que le 21e va être le siècle de la biodiversité, de la nature, etc. Et là, ils ont un atout absolument extraordinaire. Ils ont une architecture magnifique. Ils ont une nature encore intacte, des sols vivants. Ici, je veux dire, il faut qu'ils arrêtent d'avoir des complexes vis-à-vis des autres régions. Faut dire, voilà, on a loupé cette époque-là, on l'a loupé. Maintenant, on part pleine tête dans le 21e siècle.
Et oui, pas de complexe, du beau, de l'intelligence, de la science, de l'envie d'avancer. Et les propos des Bourguignons sont dans la ligne directrice de cette émission depuis 25 ans. Ne pas faire contre, mais avec la nature. Après les couleurs du Lot, une autre jolie couleur, la voix de Norah Jones. Crushed by thoughts at night. Oh.
screams, he shouts, the hits on the TV bow. They take the bait, they mirror waves of hate. They break down walls to free their sins, and then their hearts come caving in. Oh, I watch, I think, I dance, and sometimes I drink, I sing my songs, I hope someone sings. If I should break my silent streak, will knives come out to cut my cheek? Oh, I'm alive, yes, I'm alive, but I'm
I am alive. Merci Nora Jones et Thierry Dupin, Camille Blanès, Jérôme Boulet et le Twitter de Nichesou. Nous vous souhaitons un bel après-midi et une bonne semaine. D'autres rendez-vous nature samedi et dimanche prochain à 13h20. Les podcasts franceinter.fr. En attendant, portez-vous bien.